Le début de l'intelligence, première partie 2, les actes réflexes. Ces actes réflexes, que nous considérons par hypothèse comme la forme la plus simple des conduites psychologiques, présentent un certain nombre de caractères. Il est évident que la détermination de ces caractères comporte quelques degrés d'abstraction, car la détermination d'un élément ne peut être faite qu'en éliminant, dans l'observation d'une chose complexe, les parties ou les caractères qui nous semblent exceptionnels et accessoires. Un acte réflexe est une réaction composée de mouvements bien déterminés à une stimulation externe également bien déterminée. Le mouvement que l'on observe, plus ou moins compliqué, est toujours le même quand la stimulation elle-même reste identique. Il dépend de la contraction à un certain degré, de certains muscles plus ou moins nombreux et d'une succession régulière de ces contractions dans un certain ordre. Dans l'ouvrage de messieurs von Monacoff et Murg, Introduction biologique à l'étude de la neurologie et de la psychopathologie, 1928, ces contractions successives dans un ordre bien réglé sont comparées à une mélodie. Il y a, dans le fonctionnement de l'organisme, des mélodies cinétiques qui montrent une organisation des mouvements dans l'espace et dans le temps. On pourrait comparer cette organisation à celle qui se manifeste par la mise en marche de disques de phonographe. Pour constater cette régularité du mouvement dans l'acte réflexe, il faut que la stimulation soit également très précise. Il s'agit de telle pression, de tel contact, de telle brûlure, de tel phénomène lumineux déterminé non seulement dans sa qualité, mais aussi dans sa quantité. Si la stimulation est trop faible, le réflexe ne se produit pas. À moins que la sommation des stimulations dans un temps très court n'amène une intensité suffisante. La stimulation doit encore être faite sur un point déterminé des téguments. M. Sherrington a bien montré ce caractère en étudiant sur des animaux décérébrés le célèbre scratch reflex, le réflexe du grattage. Le mouvement de gratter est fait par telle patte de l'animal, avec tel muscle, avec telle intensité, sur tel point de la peau, suivant l'endroit de la peau qui est stimulé. Il diffère dès que cette stimulation s'exerce sur un autre point, même voisin du premier. Cette détermination du réflexe est si précise que cet acte ne semble point présenter de degré. Il existe ou il n'existe pas et présente à un haut degré ce caractère du « tout ou rien » qui semble essentiel dans les conduites élémentaires. Quand le réflexe est déclenché, il se produit jusqu'au tout d'une manière complète sans pouvoir être à telle ou telle phase de son activation. On le voit bien dans le réflexe de la déglutition qui se produit complètement ou qui ne se produit pas. Nous avons souvent étudié les phases de l'activation qui jouent un rôle si important dans des actes un peu plus élevés. Ici, il ne peut être question que de deux phases. La latence, quand le réflexe ne se produit pas, mais reste simplement possible, et la consommation, quand l'activation est complète et arrive à son terme. C'est ce que nous avons résumé en disant que le réflexe est un acte explosif par opposition aux actes suspensifs qui caractérisent les conduites perceptives. À ces caractères bien connus par les physiologistes, peut-être pouvons-nous ajouter quelques détails particuliers intéressants pour nos études psychologiques. Le réflexe est pour nous un acte simple, qui répond à une seule stimulation actuellement présente et qui ne s'adapte pas d'avance à d'autres stimulations possibles après la première. Un objet placé devant les yeux ne détermine dans l'acte réflexe que des réactions simples d'accommodation visuelle suivant son éclairage et sa distance. Quand la réaction consiste en des actes plus complexes, adaptés à la nature de l'objet, aux stimulations nouvelles qu'il peut déterminer quand on s'approche de lui, quand on le prend, quand on le mange, nous ne désignons plus ces actes plus complexes par le nom de réflexe. Le réflexe est également simple en ce qu'il se présente comme un seul acte qui a son unité, qui n'existe que sous cette forme totale, qui ne peut pas être décomposée en plusieurs actes plus simples, susceptibles de se présenter isolément dans d'autres circonstances. Nous venons de parler du plan verbal dans lequel des actes de langage se mêlent à des mouvements des membres. À un commandement ou à une invitation, nous répondons extérieurement ou intérieurement par une formule verbale. Oui, j'accepte. Et nous exécutons en même temps, par des mouvements des membres, l'acte demandé. Il y a une division de l'acte en deux parties, l'une verbale et l'autre particulièrement motrice. Ces deux parties, d'ailleurs, sont déjà connues comme pouvant se présenter isolément. Cette complication tout à fait caractéristique des actes d'un niveau plus élevé n'existe pas encore dans l'acte que nous considérons comme réflexe au point de vue psychologique. Enfin, l'acte simplement réflexe n'est pas modifié par ces régulations psychologiques qui caractérisent les sentiments. L'effort n'augmente pas normalement les réflexes pupillaires, la tristesse ou la joie ne le transforme pas directement. Sans doute, plusieurs réflexes provoqués simultanément par plusieurs stimulations qui agissent au même moment peuvent, jusqu'à un certain point, agir l'un sur l'autre. Mais cette action réciproque, quand il s'agit de réflexes élémentaires, consiste surtout en une inhibition de l'un de ces actes par l'autre, qui accapare la voie commune, comme dit M. Sherrington. Les belles expériences de M. Pavlov sur les réflexes conditionnels ont été faites le plus souvent sur des animaux supérieurs. Elles nous présentent déjà des conduites intermédiaires entre les réflexes et les actes perceptifs. Un chien qui salivait quand de la viande était placée dans sa bouche a appris à saliver en entendant un coup de sifflet. Le réflexe de la salivation n'est pas modifié en lui-même, mais il se produit d'avance en relation avec une stimulation possible et future. Il en est de même quand l'acte de s'asseoir est déclenché à la simple vue du fauteuil. Il s'agit de ces associations de réflexes par un schéma perceptif que nous étudierons prochainement. Bien entendu, les combinaisons de réflexes en un acte nouveau, qui n'est identique ni à l'un ni à l'autre des actes primitifs, sont d'un niveau plus élevé encore. Nous les retrouverons précisément à propos des actes intellectuels élémentaires. Ces actes réflexes que nous considérons comme les plus simples des conduites psychologiques présentent, sur la sensation de Condillac, de nombreux avantages qui facilitent les études psychologiques. Ils ne sont pas, comme la sensation des philosophes, une conception abstraite. Ils peuvent être étudiés réellement dans des conditions particulières, sous une forme relativement pure. Les réflexes peuvent être constatés isolément chez les animaux les plus simples qui, probablement, n'ont pas d'autres formes de conduite psychologique. Des mollusques, des insectes ne présentent pas d'autres conduites que la conduite réflexe. Les tropismes de Loeb ne sont qu'une forme particulièrement simple de certains réflexes. Il est probable que l'enfant très jeune, dans les premiers jours de la vie et peut-être même avant la naissance, dans l'utérus de sa mère, ne présente que des actes réflexes simples. Les premières actions de téter, d'uriner, d'expulser le méconium sont de ce genre. Les études sur les blessés de la colonne vertébrale, avec des sections de la moelle épinière à diverses hauteurs, permettent de constater sur les membres situés au-dessous de la lésion des mouvements réduits à la forme de réflexes psychologiques. Nous trouvons une étude complète de ces mouvements dans l'ouvrage de M. Lhermitte, La section totale de la moelle dorsale, 1919. ces études si importantes sur les mouvements des membres après les sections de la moelle épinière ont été poussées très loin dans le beau livre de M. Sherrington sur les animaux décérébrés, The Integrative Action of the Nervous System, 1910. C'est la nécessité de rendre les animaux tout à fait insensibles dans les expériences de vivisection montrées aux élèves qui a amené M. Sherrington à étudier les sections expérimentales de la moelle. Il a rencontré bien des difficultés pour conserver en vie de tels animaux décérébrés et il a été amené à étudier leur comportement. Ces études ont fait avancer beaucoup notre connaissance des actes réflexes élémentaires. On retrouvera ces actes réflexes, mais sous une forme moins pure, chez les individus de l'espèce humaine que la maladie a réduit à une vie végétative. J'ai eu l'occasion d'étudier deux idiotes qui étaient bien au-dessous des animaux supérieurs et qui ne présentaient guère que des actes réflexes simples. On retrouvera de tels actes isolés dans les états de démence profonde. Dès que l'enfant a dépassé les premiers jours ou les premières semaines de la vie extra-utérine, ces actes prennent ordinairement des formes plus compliquées et dans la description psychologique, nous devons les placer à un stade supérieur. Le plus souvent, le changement se fait par le phénomène de la prise de conscience. Cette opération de la prise de conscience consiste le plus souvent dans l'addition d'un acte supérieur à celui qui était exécuté sous une forme inférieure. Nous avons souvent remarqué à ce propos que toutes les réactions du stade inférieur ne sont pas ainsi transformées en actes du stade supérieur. Une partie plus ou moins considérable de ces réactions continue à garder la forme inférieure. C'est ce qui donne naissance aux actes qui ont provoqué tant de controverses sous le nom d'actes subconscients. Nous savons que l'homme cherche à transformer en langage toutes ses actions, mais un certain nombre de ses actions restent non exprimées verbalement et quelquefois même ne peuvent pas l'être, comme on le voit en étudiant ce qu'on a appelé l'ineffable. Un acte subconscient n'est pas autre chose qu'une action qui a conservé une forme inférieure au milieu d'autres actions d'un niveau plus élevé. Des croyances de forme élémentaire, que nous avons appelées autrefois assertives, dans un esprit capable de réflexion, peuvent souvent se présenter comme subconscientes. Il en résulte que, chez l'homme adulte et normal, bien des réactions peuvent rester à l'état de réflexe. Quelques-unes restent bien simples, comme le réflexe patellaire, le réflexe pupillaire, mais, en général, leur étude demande des précautions, car il faut se méfier de l'intervention toujours possible de phénomènes d'un ordre supérieur qui viennent compliquer ces réflexes. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que, sous différentes influences, la tension psychologique, le degré d'élévation moyenne des conduites d'un individu peuvent s'abaisser. Nous voyons cet individu rétrogradé, revenir à des formes de conduite plus simples, plus anciennes qu'il avait dépassées. Il peut revenir, au moins momentanément, à de simples réactions réflexes, comme cela arrive dans l'accès épileptique le plus grave. C'est l'étude de tels phénomènes qui nous a amenés autrefois à considérer les convulsions comme les formes les plus simples de l'activité psychologique réduite à la forme réflexe. Cette réduction à la forme réflexe, au lieu d'être générale et de se présenter pour tous les actes d'un individu, peut bien plus souvent n'être que partielle et affecter seulement telle ou telle action particulière. La plupart des actes qui, au début, ont pris une forme supérieure quand ils ont été constitués pour la première fois, tendent à se dégrader par la répétition habituelle. Un grand nombre de nos actions habituelles, quand l'attention ne porte pas sur elles, se rapprochent à la longue des actes réflexes. En résumé, l'acte réflexe, sous sa forme la plus simple, est le fonctionnement d'un organe déjà constitué par la vie et apparaissant tout formé à la naissance. Les premiers réflexes sont les réactions des organes déjà constitués et les réflexes acquis correspondent probablement à la formation de nouveaux organes. Les actes de l'alimentation, de la déglutition, de la respiration, de la miction, de la défécation sont constitués en même temps que les organes eux-mêmes. Leur origine se confond avec celle de l'organisme. Un petit nombre de réflexes sont acquis et résultent de l'activité de l'être quand elle prend, au début, une forme supérieure et quand elle crée à son tour des dispositions organiques qui se conservent sous une forme primitive.